élections, eh bien, à un moment, vous le savez, où les Français, mais pas seulement les Français, hein, les Européens, et puis un peu partout dans le monde, eh bien, nous sommes particulièrement inquiets. Nous sommes inquiets, et même dans le désarroi, parce qu'il y a évidemment la crise économique. Il y a aussi au-delà les problèmes écologiques que vous connaissez, hein. Il y a la guerre ou les risques de guerre, il y a le terrorisme, bon, pas mal de nuages qui s'accumulent sur le monde. Et vous pourriez m'objecter eh bien qu'il y a peut-être plus urgent que de venir vous parler de l'Europe à un moment où il y a ces problèmes. Mais lorsque l'Europe s'occupe de ces problèmes, vous le savez, c'est souvent de manière trop peu unie et trop peu efficace. Hein. Vous pourriez aussi penser, et tout particulièrement à Thiers ici, hein, qu'il y a plus urgent que parler de la mondialisation, alors qu'il y a tant de problèmes à résoudre dans la société française, mais aussi au niveau régional, mais aussi au niveau local. Ce matin, j'ai visité le musée de la Coutellerie, j'ai essayé d'apprendre un peu des choses sur Thiers. Et c'est vrai que, eh bien, à la fois, il y a des motifs d'espoir, mais il y a aussi des inquiétudes, hein, au niveau industriel. Donc il me semble pourtant, malgré tout cela, que tout est lié. Et je vais essayer, donc, en une petite demi-heure, vous parler de la mondialisation et de l'Europe, hein, même s'il ne faut pas oublier les problèmes nationaux, les problèmes locaux. Alors j'ai dit qu'il me semblait, je voudrais repartir de là, j'ai dit, je viens de prononcer une parole, une expression, tout est lié. Tout est lié, je crois que nous pouvons commencer par là pour définir un peu plus précisément ce qu'on appelle en français la mondialisation, qui vous le savez s'appelle globalisation dans d'autres langues. Et en gros, il me semble qu'on peut définir la mondialisation par trois caractères. Hein. D'abord, le premier, c'est une intensification de tous les échanges, pas seulement des échanges économiques, on pense souvent aux échanges économiques, mais pas seulement les échanges économiques, puisque cela peut être les échanges politiques. Vous savez que quand quelque chose se passe dans un pays aujourd'hui, c'est des répercussions dans tous les autres pays, etc. Mais aussi les échanges démographiques, pensez aux migrations, hein, qui n'ont jamais été aussi importantes, mais aussi les échanges culturels, bref, une intensification des échanges. Mais en même temps qu'une intensification des échanges, une extension à toute la planète. Il suffit de penser à des phénomènes, je vais vous citer des phénomènes apparemment hétéroclites, hein, mais vous verrez très vite le rapport entre tous ces phénomènes, des phénomènes comme les marchés financiers internationaux, les entreprises multinationales, les Jeux olympiques de Pékin d'il y a quelque temps, hein, le mouvement terroriste Al-Qaïda, le marché mondial de la drogue, les réseaux internationaux de prostitution ou d'immigration illégale, hein, les restaurants où l'on mange un peu partout en Europe, hein, et un peu partout en cuisine que l'on appelle aujourd'hui métissée, hein, la chaîne CNN que j'avais hier soir dans mon hôtel ici, le développement d'Internet, les milliers d'organisations, des organisations non gouvernementales qui se mobilisent, par exemple, pour le climat, bref, etc. Ce qui caractérise, évidemment, tous ces phénomènes, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, c'est leur dimension mondiale, bien évidemment. Et puis, la troisième caractéristique, je serai plus bref, c'est non seulement l'intensification et l'extension, mais l'interaction de tous ces phénomènes entre eux. Pensez par exemple que ces phénomènes agissent l'un sur l'autre. Il est clair par exemple que le terrorisme international est lié à la mondialisation de l'économie, que ce terrorisme, eh bien, il émane de pays qui, à tort ou à raison, mais s'estiment, certaines couches dans certains pays, s'estiment victimes de la mondialisation. Alors je terminerai cette rapide caractéristique qui ne prétend pas à l'originalité, hein, vous avez vu ça dans les cours de géographie ou d'histoire ou d'économie de manière sans doute plus approfondie, hein, mais je terminerai en disant que ce phénomène est essentiellement contradictoire. C'est un phénomène hautement contradictoire, la mondialisation, puisque à la fois elle crée de la richesse, c'est un énorme progrès économique, pensez par exemple à la Chine, qui sort de la misère, c'est un phénomène tout à fait d'une ampleur inégalée, hein. Mais elle crée aussi de nouvelles solidarités. Pensez par exemple au début de prise de conscience, avec beaucoup de tâtonnements, mais au début de prise de conscience des intérêts de toute l'humanité, par exemple autour du climat, hein. Mais elle crée aussi de nouvelles inégalités. Et puis, au niveau politique, elle a souvent pour conséquence de pacifier les rapports entre les États, parce que la guerre n'est pas souvent compatible avec le commerce, hein, mais elle peut avoir aussi pour conséquence de nouveaux conflits, hein, entre ceux qui profitent de la mondialisation, entre ceux qui en profitent moins, voire qui en sont des victimes. Et puis elle engendre la richesse culturelle par le brassage des cultures, mais aussi, quelquefois, un écrasement des cultures locales, un sentiment de déracinement, de désarroi, bref. Vous le savez, ce phénomène est hautement contradictoire. Alors je voudrais, pour sortir de ces généralités, vous parler seulement de deux types de phénomènes. C'est-à-dire que je vous parlerai d'une part, dans un premier temps de l'exposé, de la sphère économique et sociale. Je serai assez bref, mais avec des allusions quand même à l'actualité, parce que ce sont des choses que nous voyons en ce moment, que nous avons sous nos yeux. Et puis je parlerai de la sphère politique, de ce qui se passe au niveau politique, au niveau de la mondialisation et au niveau de l'Europe. Et je terminerai en parlant de l'Europe. Mais naturellement, j'aurais pu parler aussi de la religion, hein, où il y a des phénomènes très intéressants qui se développent au niveau mondial, de la culture, etc. Mais dans le temps qui m'est imparti, vous imaginez que je ne peux pas parler de tout. Donc commençons par la mondialisation comme un phénomène économique et social. Donc j'ai dit que la mondialisation de l'économie représentait un progrès gigantesque, hein, en parlant de la Chine tout à l'heure, de l'humanité, mais en même temps c'est un processus qui est porteur de menaces. Pensez par exemple au poids que la croissance mondiale fait peser sur l'environnement, ou à la fragilité plus grande du système économique. On a eu des exemples récents. Donc, elle fait naître des menaces et de nouvelles inégalités aussi, hein. Menaces et inégalités du fait des capacités variables, des groupes sociaux, des pays, des individus, à s'insérer dans ce processus de mondialisation. Alors, je vais reprendre très rapidement cela. Les menaces, d'abord. Les menaces, puisqu'il y a à la fois... Et je crois que c'est cela qui est important de comprendre, hein, à la fois une efficacité supérieure du système économique mondial, hein, on est en train de sortir, sauf peut-être pas partout, mais progressivement de la misère, de la famine, etc. Donc une efficacité supérieure du système économique mondial et, en même temps, vous le savez, on l'a vu depuis 2 ans, une fragilité plus grande de ce système, dans la mesure où il repose sur des relations, disons, plus... libre entre des agents beaucoup plus nombreux. Hein. Pensez au processus de dérégulation, hein, qui a eu lieu ces dernières années et qui a abouti au niveau de la finance internationale, hein, à la catastrophe dont nous ne sommes pas encore sortis, hein, la crise économique. Donc des menaces et puis des inégalités. Des inégalités, puisque la généralisation, hein, du système économique, la mondialisation économique, met en concurrence, en effet, vous le savez, hein, et vous êtes bien placé à Thiers pour le savoir, met en concurrence tous les agents, qu'il s'agisse des individus, hein, des groupes, des entreprises, des groupes d'État, hein, les met en concurrence pour attirer des entreprises, des capitaux, des étudiants, des touristes, etc. Et on peut penser, hein, et certains pensent que cette concurrence est globalement positive, mais vous savez aussi qu'il y a des perdants, hein, il n'y a pas que des gagnants. Et puis, cette concurrence n'empêche pas, évidemment, la constitution, vous savez, par exemple, avec la Russie, hein, de puissants oligopoles, hein, de puissants monopoles comme Gazprom en Russie, hein, qui peuvent pratiquer une politique autour de l'énergie, de puissance, de chantage, etc., sans parler des contrefaçons, du dumping, hein, vous connaissez en particulier les ES parmi vous, tous ces phénomènes économiques. Alors je crois qu'on pourrait résumer cela, c'est un simple rappel pour l'instant, pour le résumer en faisant appel à donc ce phénomène contradictoire, hein, ce phénomène à la fois positif et négatif, je crois qu'on peut le résumer en faisant appel à un concept que peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, c'est le concept de société complexe. Société complexe qu'on trouve par exemple chez un grand sociologue allemand qui s'appelle Luhmann. Luhmann dit « nous sommes dans une société complexe » et pour définir très rapidement ce qu'on entend par société complexe, c'est de manière imagée, hein, c'est une société, c'est une sphère qui est elle-même composée d'autres sphères. Notre société, elle est composée de la sphère économique, la sphère politique, la sphère culturelle, la science, la religion, etc. Et ce qui fait la complexité de cette société, c'est que chacune de ces sphères a sa logique propre, une logique en quelque sorte égoïste, c'est-à-dire qu'elle est sourde ou aveugle à la logique des autres sphères. Je donne quelques exemples. La culture, par exemple, ne veut pas entendre parler de la contrainte budgétaire, c'est l'horreur économique, etc. Mais l'économie, vous le savez, souvent ne veut pas entendre parler des conséquences écologiques. C'est en train de changer un peu, hein. Mais si vous interrogez un responsable économique, très souvent, il va considérer comme secondaire, hein, les contraintes écologiques. L'écologie, parfois, a tendance à oublier qu'il faut aussi que l'économie crée des emplois. Et la politique, vous voyez par exemple ce qui se passe avec la Grèce en ce moment, hein, oublie facilement, vous le savez, la rigueur budgétaire, hein, pour faire plaisir à divers électorats ou à la corruption, etc. Et donc, vous voyez que chacune de ces sphères a sa logique propre, et parmi ces sphères, il y en a une, qui est la sphère politique, hein, qui, au moins dans les pays démocratiques, ne dirige pas les autres sphères, hein, c'est ce qui caractérise les pays démocratiques, les met en relation, c'est-à-dire rappelle à chacune les exigences de l'autre. C'est cela le rôle de la politique, hein. Par exemple, obliger les milieux économiques, nous verrons que c'est ce qui se passe en Europe, hein, à tenir compte du réchauffement climatique. C'est pas évident, hein. Voilà ce qu'on appelle une société complexe, une société faite de sphères, où il y a une sphère, si vous voulez, qui est plus proprement chargée de la régulation, c'est-à-dire de la mise en rapport de toutes ces sphères. Alors, je fais ce détour qui peut vous sembler un peu loin de la mondialisation de l'Europe, mais nous allons y revenir très vite, hein. Je fais ce détour par l'idée de société complexe, bien pour rappeler que l'autonomie de l'économie, hein, qui caractérise nos sociétés, hein, et qui est absolument nécessaire, hein, puisque nous avons fait en particulier en Europe, hein, l'expérience au milieu du XXe siècle, et donc dans la première moitié du XXe siècle et un peu dans la seconde moitié, nous avons fait l'expérience de l'économie dirigée, hein, par la sphère politique, et qui a été, vous le savez, un échec. Donc l'autonomie de l'économie ne peut pas aller sans la régulation. Je crois qu'aujourd'hui, il y a, en dehors des discussions politiques, des prises de position politiques, il y a quand même un accord sur l'idée qu'il faut à la fois l'autonomie et la régulation. Et l'autonomie, si vous voulez, ici comme ailleurs, hein, fait naître un besoin de règles du jeu au niveau économique. Or, ce qui caractérise, vous le savez, ce qui caractérise le monde contemporain, c'est que cette régulation absolument nécessaire de l'économie, elle ne peut plus être faite ni au niveau purement national, comme cela a été le cas pendant un certain temps, ni, ou pas encore, et on ne sait pas quand, ni au niveau purement mondial, à supposer qu'elle le puisse un jour. Alors, je voudrais justifier cela avant de terminer pour parler de la deuxième sphère, c'est-à-dire de la sphère politique. Le justifier très rapidement, puisque vous savez par exemple que, je prendrai comme exemple l'Islande, l'Islande qui ne fait pas partie de l'Europe. Vous avez vu que l'Islande, parce qu'elle a mené une politique imprudente, hein, au niveau économique, l'Islande a connu un véritable désastre, hein, qui s'est traduit par des pertes, je ne sais pas, imaginez 30-40% de pertes, hein, au niveau du salaire. Donc l'Islande, parce qu'elle n'était pas dans l'Europe, a subi de plein fouet cela, et elle a dû faire appel à des aides extérieures. Hein. Donc la régulation, le traitement des problèmes économiques ne peut pas se faire au niveau d'un pays seul. Regardez par exemple ce qui se passe en ce moment en Grèce, où la Grèce est un peu dans la même situation, pour des raisons un peu différentes de l'Islande. Mais la Grèce, on peut penser progressivement, va mieux s'en sortir, hein, parce qu'elle est dans un ensemble plus vaste, qui est l'ensemble européen. Alors vous pourriez me dire, certes, bien sûr, hein, il n'y a plus, il n'y a plus plus de régulation, et ça je crois qu'aujourd'hui on le sait, au seul niveau national, mais vous pourriez me dire, oui, mais il existe, en particulier les ES parmi vous pourraient me dire, oui, mais enfin, et le FMI, le Fonds monétaire international, hein, et l'Organisation mondiale du commerce, et la régulation mondiale. J'en reparlerai un tout petit peu tout à l'heure de la régulation mondiale, mais ce que je voudrais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que entre le niveau national et le niveau international, qui n'est pas négligé quand même, il y a le niveau intermédiaire, qui est le niveau européen. J'essaierai de vous montrer un peu comment l'Union européenne, un des rôles de l'Union européenne, c'est d'effectuer cette régulation qui ne se fait plus ni au niveau national et peut-être et pas encore au niveau mondial. Bon, on reparlera de tout ça dans le débat. Je voudrais dire quelques mots maintenant de la mondialisation comme phénomène politique. Donc, deuxième sphère, la sphère politique. Bien, vous savez que la mondialisation, je l'ai dit, c'est aussi un phénomène politique. Ce n'est pas seulement un phénomène économique. Et que parmi tous les phénomènes politiques qui caractérisent la mondialisation, il y en a un qui est absolument important, c'est l'émergence d'un monde multipolaire. Vous savez ce qu'on appelle un monde multipolaire ? C'est un monde qui n'est plus dirigé par deux superpuissances, comme ça a été le cas pendant très longtemps. Et c'est une très bonne chose. Hein. C'est une très bonne chose qu'un monde multipolaire, c'est la fin des impérialismes, hein. Mais en même temps, vous savez que paradoxalement, c'est un monde peut-être plus dangereux. En tout cas, c'est un monde qui a son revers. Par exemple, pensez avec l'apparition d'États forts, hein, pensez à l'Iran et la menace qu'il représente, ou à la Russie, hein, et sa politique quelquefois assez forte. Hein. Il y a des États forts, quelquefois agressifs, quelquefois cyniques, hein, qui mènent une lutte exacerbée, parfois, vous voyez la Russie, pour la maîtrise d'énergie. Et je crois que fait également partie de ce paysage, hein, de la mondialisation politique, bien évidemment le terrorisme, ce qui naît, comme je l'ai dit, dans des pays qui où certains groupes, hein, essaient de rêvent de restaurer, vous savez, la Méditerranée comme frontière entre l'Occident et l'Orient, hein, reconstituer le califat, comme dit Ben Laden, hein, c'est-à-dire mettre fin à cette frontière poreuse, hein, où il y a eu des échanges très enrichissants dans les deux sens pendant très longtemps. Alors je crois qu'on peut résumer tout cela en disant qu'il ne faut pas croire à la légende qui est quelquefois colportée par des partisans un peu naïfs de la mondialisation, hein, qu'il ne faut pas croire à la légende selon laquelle la mondialisation de l'économie déboucherait automatiquement sur un monde plus démocratique et plus pacifique. Je crois qu'on c'est loin de là. Et face à cela, il y a deux solutions. Il y a deux solutions qu'on voit en ce moment apparaître. Je voudrais plaider plutôt pour une troisième. La première solution, ça serait un optimisme libéral qui dirait, bon, les ressources sont infinies, au niveau économique, les peuples se réconcilient progressivement par le commerce et par le développement de la démocratie et du droit. L'autre, c'est le pessimisme protectionniste, la clôture nationaliste, voire dans certains cas, vous le savez, religieuse, hein, voire raciale. Pensez à l'épuration ethnique, hein, qui a tenté certains pays, ou simplement la clôture des civilisations. Et l'idée que je voudrais soutenir dans la troisième et dernière partie de cet exposé, eh bien, c'est qu'il me semble comme dans la sphère économique, hein, exactement comme dans la sphère économique, il peut y avoir une régulation intermédiaire au niveau politique. Hein, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus réguler ces problèmes politiques, hein, au seul niveau de chaque État-nation, ou par une politique simplement d'alliance classique entre les États-nations, politique qui, vous le savez, a conduit à la guerre, hein, au 19e, depuis le 18e jusqu'au 20e siècle, hein, mais nous n'avons pas encore une gouvernance mondiale. J'en parlerai, hein, au niveau politique, on avance, hein, en particulier en raison de la crise, hein, on avance vers une gouvernance mondiale, mais je voudrais montrer que là aussi il y a un niveau intermédiaire, qui est le niveau européen. Donc pour terminer, je voudrais vous parler de l'Europe et de la mondialisation. Donc après avoir fait ce bref portrait de la mondialisation, hein, vous en parlez en reprenant tout simplement les deux sphères dont je viens de parler, c'est-à-dire d'abord la sphère économique, puis la sphère politique. Bien, je dirais au niveau de la sphère économique que la régulation économique mondiale existe, hein, bien sûr. J'ai parlé tout à l'heure du FMI, de l'Organisation mondiale du commerce. Hein. Vous pourriez penser à l'émergence aussi du G20, qui est quelque chose, on en parlera peut-être dans le débat, qui est quelque chose de très important, puisque pour la première fois, les pays du... ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, rentre dans le club des gouvernants, en quelque sorte. Mais tout cela existe. Mais je voudrais montrer ce qui est important aussi, c'est la régulation au niveau intermédiaire, c'est-à-dire la régulation au niveau de l'Europe, et cela d'un double point de vue. J'insiste beaucoup, je tiens beaucoup à ces deux points de vue, c'est du point de vue de l'intérêt, mais aussi du point de vue de la justice. C'est-à-dire du point de vue de ce que, si vous voulez, de la morale ou du droit, appelez-le comme vous voulez. Alors, du point de vue de l'intérêt d'abord, qu'est-ce que je veux dire qu'il y ait une régulation européenne du point de vue de l'intérêt ? Eh bien, il est clair que la régulation économique, hein, au milieu des grandes, au niveau des grands ensembles régionaux comme l'Union européenne, bien, c'est tout simplement une nécessité pour la survie. Je crois qu'aujourd'hui, c'est bien connu, hein, les États européens sont trop petits pour survivre au niveau économique. Et d'ailleurs, vous savez que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est pour survivre, hein, au niveau économique que peu à peu les pays européens ont créé une Union européenne qui a permis à l'Europe de devenir la première puissance commerciale mondiale. Mais l'intégration européenne, vous le savez, c'est pas seulement une question d'intérêt. C'est aussi une question de valeur, c'est aussi une question de justice. Je voudrais juste vous donner un exemple. Pensez au fait que les États nationaux, hein, la France, l'Allemagne, tous les pays européens, face au phénomène de la mondialisation, hein, jouent certes encore un rôle de redistributeur, hein, un rôle de solidarité, hein, mais de moins en moins, ils peuvent jouer ce rôle seuls. Hein. Pensez à l'impuissance des États face au licenciement, hein, qui ne connaissent pas de frontières, hein, face à la délocalisation d'entreprises étrangères. Et une tentation apparaît alors, vous le savez, au niveau national, hein, c'est celle de réagir en sacrifiant la solidarité. Hein. On le voit très souvent en Europe. Pensez par exemple aux régions de l'Italie, hein, aux régions de l'Espagne aussi, qui quelquefois ont la tentation de quitter même l'État national, hein, pour ne pas exercer la solidarité avec d'autres régions plus pauvres, comme l'Italie du Sud, etc. Et je crois que c'est ici qu'intervient l'Europe, donc pour organiser, même si c'est un début, hein, la solidarité à un niveau supérieur, cela parce que les pays européens, pour le dire comme le disent un peu les sociologues, hein, ont une tradition sociale forte, hein. C'est-à-dire ont une tradition de protection sociale. Vous savez que la protection sociale est bien évidemment meilleure en Europe qu'en Chine ou aux États-Unis. L'Europe a aussi une préférence pour ce qu'on appelle les préférences collectives non marchandes. Les préférences collectives non marchandes, c'est par exemple l'intérêt pour l'écologie, hein, pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous savez que l'Europe est en pointe, hein, même si c'est quelquefois difficile. Donc je crois qu'on peut dire tout cela d'une autre manière. Hein. Toute l'histoire donc de l'Union européenne, c'est celle d'une organisation régionale, hein, entendons régionale au sens d'un ensemble, d'une région de l'humanité, hein, d'un ensemble de nations, une organisation régionale défendant les intérêts de ses membres, hein, mais aussi d'une organisation qui est soucieuse d'égalité de solidarité entre ses membres. On le voit avec la Grèce, c'est pas évident. Hein, et cela... et au-delà, entre tous les États du monde. Donc l'Union européenne, en gros, elle s'est construite sur un double refus. Le refus, d'une part, hein, du protectionnisme, qui à long terme pénalise tout le monde, le refus du repliement, et puis le refus d'un monde non régulé, débouchant sur la domination des plus forts, sur l'écrasement, par exemple, des différences culturelles, des identités régionales ou des identités locales. Donc je dirais que, pour terminer ce premier volet du dernier volet, je dirais que l'Europe n'est pas le cheval de Troie, si vous voulez, d'une mondialisation dangereuse, comme certains le pensent, mais que c'est plutôt la mondialisation qui rend nécessaire et qui appelle l'Europe comme un ensemble d'institutions régulatrices, je crois qu'on le voit bien avec la crise économique. Et si l'Europe ne définit pas des normes, bien, d'autres le feront à sa place. Il y a toutes les chances pour que ces normes soient moins justes. En d'autres termes, la mondialisation peut être subie, mais elle peut être également agie activement. Alors, des exemples de cela pour terminer. Bien, vivre activement la mondialisation, par exemple au niveau de l'efficacité, hein, au niveau économique, bien, c'est par exemple mettre en place, vous le savez aujourd'hui, des politiques européennes, des politiques européennes en matière financière, économique, ce qui suppose, si vous suivez un peu l'actualité, hein, ce qui suppose des compromis entre des pays qui ont des traditions tout à fait différentes. Hein. Pensez par exemple à la France, qui a une tradition très interventionniste. Puis la Grande-Bretagne, qui a une tradition plus libérale, hein. L'Allemagne, qui a, vous avez vu, une tradition différente de la France, hein, qui a une tradition de grande rigueur budgétaire, ce qui crée les problèmes en ce moment de tension, hein, entre la France et l'Allemagne au sujet de la Grèce, etc. Donc ce n'est pas quelque chose de très facile, hein, mais c'est le rôle de l'Europe, c'est-à-dire mettre en place des régulations afin d'éviter le protectionnisme qui, à moyen ou long terme, vous savez, tout le monde est perdant et aggrave les crises économiques. Et en ce qui concerne la justice, puisque j'ai parlé de ces deux niveaux, hein, en ce qui concerne la justice, c'est développer et maintenir autant que possible au niveau de protection sociale, malgré la crise. Vous savez que certains pays qui sont arrivés seuls, quelquefois, comme la Suède, par exemple, mais qu'aujourd'hui, c'est un problème européen. Je ne citerai que, vous le connaissez peut-être, le fonds d'adaptation à la mondialisation, qui est en train de monter en puissance. Alors, il n'est pas suffisant pour l'instant, hein, mais le fonds d'adaptation à la mondialisation, c'est un fonds au niveau européen qui permet d'intervenir très rapidement, hein, lorsque il y a des délocalisations, lorsqu'il y a un grave problème économique au niveau européen. Là, je crois qu'on assiste à le début de quelque chose qui est une régulation économique au niveau européen. Alors je terminerai en disant quelques mots de la sphère politique maintenant au niveau de l'Europe. Je viens de parler du rôle de la régulation économique. La sphère politique, bien, je crois qu'il y a un mot que vous connaissez peut-être, une expression qui a été employée par un professeur de l'IOP de Paris, hein, de Sciences Po Paris, qui a écrit un magnifique livre, c'est Zaki Laidi, qui a écrit un livre qui s'appelle « La norme sans la force ». Il définit l'Europe comme une puissance normative. Je voudrais insister un petit peu sur cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Europe, au niveau politique, est une puissance, mais normative, hein ? Bien, d'abord, prenons les deux mots l'un après l'autre, hein, une puissance. Je crois qu'elle est et cherche à devenir une puissance, car dans un monde multipolaire, hein, il faut avoir une certaine taille critique, tout simplement, pour exister au niveau politique, face à des géants politiques maintenant, hein, comme les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, hein, et quelquefois face à des pays qui sont tentés par ce qu'on appelait autrefois en Europe, hein, la réelle politique, hein, c'est-à-dire la politique de la puissance. Hein. Si les Européens restent divisés au niveau politique, bien vous imaginez ce qui se passera, faute de taille critique, hein, bien dans une conférence internationale, par exemple, hein, la France, l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, des autres pays n'existent plus, tout simplement, face au développement actuel du monde. Et je crois que c'est très important donc que l'Europe soit aussi une puissance, parce que dans un monde multipolaire, hein, aussi souhaitable soit-il, hein, ce monde est dangereux. Hein. C'est un monde dangereux où des États-nations sont belliqueux, hein, s'affrontent, pensez à la dissémination des armes nucléaires. Hein. Et puis c'est un monde aussi, on aura peut-être l'occasion d'en parler, vous savez, où certains pays rejettent de plus en plus ouvertement. Je pense à la Chine, hein, on l'a vu à propos du Tibet, ou à la Russie, on l'a vu à propos de la Géorgie, certains pays musulmans, hein, rejettent la déclaration, ouvertement, hein, depuis quelques années, la déclaration universelle des droits de l'homme, disons qu'elle n'est pas universelle, etc. Hein. Et c'est un monde aussi, où je l'ai dit, un mouvement réactionnaire, hein, au sens propre du mot, c'est-à-dire de retour en arrière, hein, naît un islamisme qui veut détruire l'islamisme modéré, hein, qui veut détruire d'abord l'islam tolérant, hein, pour développer une stratégie d'affrontement avec l'Occident. Et dans un tel monde dangereux, donc, bien, les États européens existent donc comme une puissance au milieu des puissances, même si du fait de leur histoire tragique, et je voudrais insister sur ce point, ils sont animés par un idéal pacifique, et s'ils cherchent à long terme à abolir la politique de la puissance. Puisque l'Europe, vous le savez, essaie de construire une politique étrangère, une politique de défense. Cette politique n'est pas inexistante. Il y a eu de très nombreux progrès, si vous avez suivi depuis quelque temps, hein, l'Europe politique et militaire. Mais vous savez en même temps que l'Europe ne parle pas toujours d'une seule voix face à l'Iran, face au problème du Moyen-Orient, et que c'est un gros problème. Mais je voudrais insister surtout, pas sur pour terminer, pas seulement sur l'Europe puissance, mais sur l'Europe puissance normative. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, je reprends cette idée à Zaki Laïdi, hein, qui développe en gros cette idée que l'Union européenne est la seule parce qu'elle n'est pas un super-État, hein, parce qu'elle n'est pas un État fédéral comme les États-Unis, hein, par exemple. Elle est la seule à pouvoir faire prévaloir la force de la norme, disons, la force du droit, hein, plutôt que la norme de la force, hein, à l'inverse de ce que sont tentées de faire les superpuissances. Alors vous pourriez vous demander, mais enfin, pourquoi serions-nous les seuls? Qu'est-ce que nous aurions, nous, Européens, pour faire prévaloir la force du droit et non pas le droit du plus fort? Bien, malheureusement, ce n'est pas une exception, nous n'avons rien d'exceptionnel, hein, mais nous avons connu de terribles drames. Nous avons connu de terribles drames qui ont déchiré l'Europe et qui sont d'ailleurs à l'origine de l'Union européenne, de la fondation de l'Union européenne, c'est-à-dire les deux guerres les plus épouvantables, hein, que l'humanité ait connues, les deux systèmes totalitaires jumeaux, hein, qui ont conduit à l'Holocauste et au Goulag, hein, et parce que ces drames donc nous ont appris à nous dépendre, hein, que nous pouvons établir des relations pacifiques, nous sommes un peu dans une situation particulière. Nous savons que nous pouvons établir des relations entre États partageant la souveraineté. Voilà ce que nous a appris l'Union européenne, que nous pouvions rester indépendants tout en partageant la souveraineté, que nous pouvons nous développer tout en développant nos différences, justement parce que nous acceptons de céder nos souverainetés. Et je crois que nous avons appris que au-delà, hein, peuvent exister des rapports pacifiques, non seulement entre États, hein, mais entre groupes d'États, comme l'Europe et d'autres groupes d'États, hein, que nous pouvons en quelque sorte, au niveau mondial, partager la souveraineté pour faire face aux défis globaux de notre monde. Et en ce sens, hein, l'Union européenne, je crois, malgré toute sa faiblesse diplomatique et militaire actuelle, hein, pourrait être, bon, je mets des guillemets, hein, une sorte de modèle ou de laboratoire pour l'humanité. Ce modèle dont rêvait Kant, hein, lorsque, au XVIIIe siècle, hein, vous le savez, il envisageait une société des nations, hein, l'expression est de lui, c'est-à-dire une société où des États coexisteraient, hein, en étant régis par le droit et non par la force. Donc il rêvait au XVIIIe siècle, hein, de l'embryon d'un monde multipolaire, hein, en quelque sorte, comme nous disons aujourd'hui, composé d'unions d'États ayant entre eux des rapports de droit. Donc pour le dire autrement, nous avons appris, voilà ce que je dirais pour conclure ce point, nous avons appris, nous, Européens, à partager la souveraineté, ce qui a été une des choses les plus difficiles dans l'histoire, hein, le partage de la souveraineté. Nous avons appris à vivre à plusieurs, pas en tant qu'individu, mais en tant qu'État. Hein. Nous avons appris donc à intégrer dans notre droit national, hein, le droit européen, puisque vous savez qu'un grand nombre de lois sont d'origine européenne dans la loi française. Hein. Donc nous avons appris, peut-être davantage que d'autres, hein, à accepter ce qu'on appelle aujourd'hui une gouvernance mondiale, hein, et à montrer aux autres l'avantage d'une telle régulation des relations entre États, une relation donc par la norme, par le droit, et non par la force. Alors, en disant cela, je ne veux pas dire, naturellement, qu'il faut adopter une position naïve et pacifiste. Je répète que l'Union européenne a besoin d'armes, elle a besoin d'armées, elle a besoin de soldats, elle aura besoin d'alliances militaires avec les Américains, etc. Mais je veux dire simplement que l'Europe peut devenir, au niveau de la politique internationale, bien ce qu'elle est déjà au niveau des relations entre les États qui la composent. Je crois qu'une des dimensions du futur de l'Europe, c'est sans doute la possibilité de contribuer donc à un nouveau type de rapport entre État et union d'États qui la compose, hein, c'est-à-dire des rapports, disons, pacifiques, négociés, volontaires, entre des États ou unions d'États. Je pense en particulier, mais là je tire un peu des traits sur le futur, hein, je pense en particulier à la nécessité de reconstruire l'ONU, hein, qui, vous le savez, est dans un triste état. Alors je dirais, pour résumer, hein, que les Européens ont appris depuis un demi-siècle d'Union européenne à se gouverner autrement. Voilà pourquoi on emploie souvent ce mot de gouvernance, hein, qui en français n'était pas très fréquent, hein. Se gouverner autrement d'une manière originale, c'est-à-dire non plus par une transmission verticale d'ordre, comme c'est souvent le cas dans les États nationaux, hein, encore plus dans le cas de la France, hein. Parce que la France n'a pas de tradition fédérale comme l'Allemagne ou l'Espagne. Se gouverner donc non plus par une transmission verticale d'ordre, mais par une négociation permanente et multiforme entre de très nombreux agents. Nous avons appris par exemple en Europe que la légitimité n'est plus donnée. Il ne suffit pas d'être élu, hein, démocratiquement, pour être légitime, hein, que la légitimité doit se gagner à chaque instant, qu'elle doit être justifiée à chaque instant. Et nous avons appris, par exemple, penser à cela qui est d'une nouveauté absolue dans l'histoire, hein, à traiter sur un pied d'égalité les États grands ou petits. On aura peut-être l'occasion de parler dans le débat des institutions européennes, mais vous savez qu'une des grandes caractéristiques, hein, c'est qu'un petit État, mettons Chypre ou Malte, peut-être la Grèce, qui est un peu plus grand, ou la Lituanie, pour prendre une taille intermédiaire, hein, ne sont pas complètement noyés dans l'ensemble européen. Il y a un mécanisme qui fait aussi qu'ils sont représentés, ils ne sont pas simplement noyés dans la masse. Voilà ce que je voudrais dire. Ce que je voulais dire, je crois qu'il est temps de conclure. Bien, j'espère vous avoir montré, hein, que l'Union européenne peut avoir un rôle dans la mondialisation, et qu'elle n'est pas animée exclusivement par le souci de l'intérêt des Européens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas maîtriser l'intérêt, hein, l'intérêt n'est pas du tout condamnable, personne n'a envie de se laisser envahir ou de se laisser plumer, hein, mais les Européens, lorsqu'ils ont créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, l'Union européenne, je crois qu'il pensait aussi réaliser des valeurs qui viennent du plus lointain de l'histoire occidentale, hein, on pourrait en parler, qui viennent du christianisme, qui viennent des Lumières. Hein. Les pères fondateurs de l'Union européenne, bien, ne perdaient pas de vue ce rêve de Rousseau, ce rêve de Kant, hein, et de bien d'autres, c'est-à-dire d'une Europe qui ne serait pas seulement unie autour de l'intérêt économique et d'institutions politiques, mais qui serait aussi unie autour de valeurs. Et de valeurs qui, vous le savez, ne sont pas seulement les droits de l'homme. Hein. Pensez par exemple qu'au niveau des mondiales, il y a un système de valeurs, disons, hein, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais qu'il y a aussi des valeurs proprement européennes, hein. Par exemple une solidarité entre régions d'Europe, par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre, la peine de mort. L'interdiction de la peine de mort n'est pas dans les textes internationaux, hein. Elle est dans les textes européens. C'est pourquoi, vous le savez, les États-Unis pratiquent la peine de mort. Hein. Mais en Europe, la peine de mort est interdite. On pourrait prendre des quantités d'exemples semblables. Alors, je crois que l'Europe pourrait faire émerger, voilà, quel sera mon dernier mot, hein. Elle pourrait faire émerger progressivement un monde plus régulé, à la fois au niveau économique, et je crois qu'on en sent tous les jours la nécessité de cette régulation au niveau économique, mais aussi mieux régulée au niveau politique. Et je crois que, faute de cette régulation, bien, tout simplement, si nous ne la faisons pas, comme j'ai dit tout à l'heure, d'autres la feront à notre place, et puis si d'autres la feront à notre place, nous disparaîtrons purement purement et simplement. Il y a eu au XVIIIe siècle une ville que vous connaissez, même avant le XVIIIe siècle, elle a largement commencé à entrer en décadence au XVIIIe siècle, une ville qui est aujourd'hui un musée magnifique, mais absolument rien d'autre qu'un musée. Cette ville où affluent des millions de touristes, mais qui a été une des plus grandes puissances, c'est Venise. C'est-à-dire que ce qui nous guette, ce qui nous attend, c'est devenir Venise, en quelque sorte, si nous ne régulons pas notre économie au niveau européen et si nous ne régulons pas la politique au niveau européen, c'est-à-dire qu'on viendra des quatre coins du monde visiter Thiers, par exemple, visiter les beaux restes de Thiers, on verra le musée du couteau, etc. Mais il n'y aura plus d'industrie à Thiers, etc. Et puis même chose pour Paris, même chose pour Bordeaux, etc. Ce n'est pas du tout un pessimisme, je crois que je ne fais pas preuve de pessimisme, mais simplement que nous ne pouvons plus traiter les choses au niveau, voilà ma conclusion, au niveau national, même s'il reste beaucoup de choses que nous devons traiter au niveau national. Vous savez qu'on appelle ça en Europe la subsidiarité. Le système d'éducation, l'âge de la retraite, le système de retraite, etc. Tout cela se traite au niveau national, comme il y a des choses qui se traitent au niveau local, au niveau de l'Aquitaine, au niveau de l'Auvergne, d'autres qui se traitent au niveau municipal, etc. Mais nous ne pouvons plus traiter tous les problèmes à ce niveau-là. Vous voyez le thon rouge, par exemple, un dernier exemple. Le thon rouge, vous avez vu là, depuis deux jours, là, la difficulté, l'Europe a perdu pour l'instant, hein, provisoirement, elle a perdu. Hein. Elle a essayé, mais elle a perdu. Ça ne veut pas dire que dans deux ans, elle ne gagnera pas. Donc nous ne pouvons pas faire cette régulation économique et politique au niveau national. Nous ne pouvons pas encore la faire, malgré l'émergence du G20 au niveau mondial. C'est pourquoi je crois qu'il y a une responsabilité qui nous incombe, qui est une responsabilité au niveau intermédiaire, qui est le niveau entre l'État-nation et le niveau mondial. D'où la nécessité de ne pas seulement, et je terminerai par là, nous sentir citoyens français, ce qui est important, hein, ne pas seulement nous sentir citoyens du monde, j'imagine qu'il y en a parmi vous, qui, c'est une excellente chose, hein, qui sentent citoyens du monde. C'est la preuve qu'il y a une prise de conscience des intérêts de l'humanité. Hein. Il y a 50 ans, peu de monde ici se serait déclaré citoyen du monde. Donc être non seulement citoyen français, non seulement citoyen du monde, hein, mais citoyen européen. Et c'est peut-être le niveau intermédiaire qui est en même temps le niveau le plus difficile à saisir, étant donné de la grande complexité des institutions européennes. Je n'y ai pas fait allusion, mais enfin on pourra en parler dans le débat. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long, je lance le débat, donc même si vous avez des questions qui sortent un peu du cadre de mon exposé, hein, évidemment, posez-les quand même à partir du moment où elles concernent l'Europe et la mondialisation. Je vous remercie pour votre attention exemplaire, la vidéo sera d'une excellente qualité, et donc je vous donne la parole. Merci beaucoup.